9h, 11h.
Wendy Bouchard.
Et donc bonjour à tous, soyez les bienvenus chers amis pour faire avec nous au quotidien le tour de la question. Bonjour Julie.
Bonjour Wendy.
Bah, permettez-moi de vous associer pour présenter tous nos vœux, les meilleurs de douceur, de rire, de lumière, de partage pour nos auditeurs. Vivre ensemble et construire ensemble, c'est bon et ça nous semble nécessaire. Et on fait avec vous l'éclairage sur l'actualité de manière la plus enthousiaste possible au quotidien. Premier tour de la question ce matin sur la fraude fiscale et sur les outils numériques chargés de lutter contre. À quel point seront-ils efficace alors que cette fraude a été tout récemment estimée à 100 milliards d'euros par an, alors que le gouvernement veut récupérer autour de 17 milliards d'euros par an. C'est l'une des réalités au cœur de la contestation sociale. Et puis à 10h, on va donc s'intéresser au grand succès littéraire. Comment Michel Houellebecq, à partir de son premier roman, a créé l'enthousiasme, lui aussi, a réussi à passionner les lecteurs. 320 000 exemplaires de son dernier roman mis en place vendredi dans toutes les librairies. Comment expliquer ces phénomènes? Que disent-ils de nos attentes aussi et du marché du livre? Et bien sur ces deux sujets, vous n'hésitez pas à réagir. Et c'est dès maintenant, on vous en rappelle toutes les modalités, Julie.
Au 3921, vous avez aussi le hashtag Europe 1 pour les réseaux sociaux.
C'est parti jusqu'à 11h.
9h, 11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Et avec au cœur de l'actualité ce fléau bien ancré, Bercy qui mise sur les nouvelles technologies pour traquer les fraudeurs du fisc. Nous sommes avec deux invités qui connaissent le sujet sur le bout des doigts. Émilie Cariou, bonjour.
Bonjour.
Députée La République En Marche de la Meuse, spécialiste du sujet. Vous nous rappellerez le rapport parlementaire qui a permis avec vous l'ouverture du verrou de Bercy, le fameux, on en parlera. Et Xavier Timbaud, analyste et directeur de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Merci d'être avec nous l'un et l'autre pour nous éclairer sur ce sujet. On se demandera d'ailleurs si la France fait assez jusqu'à présent pour récupérer ce manque à gagner très conséquent, estimé d'ailleurs selon le dernier syndicat sur la question des finances, à 100 milliards d'euros par an. Par définition, comment on estime une fraude? C'est toujours étonnant, Émilie Cariou.
Et justement, ce chiffrage de la fraude, tel qu'il est fait aujourd'hui dans le rapport du syndicat
Solidaires Finances Publiques,
à vrai dire, personne ne s'entend sur ces chiffres. La Cour des comptes a chiffré ça à 25 milliards d'euros. La Commission européenne et le Parlement européen chiffrent à 1 000 milliards d'euros au niveau européen.
Oui.
Bon, tout ça montre qu'en fait, le chiffrage de la fraude et de l'optimisation fiscale, c'est quelque chose de très compliqué à faire. Ça a été établi d'ailleurs dans un rapport parlementaire l'année dernière et on va mettre en place en fait des vrais outils de suivi avec un certain nombre d'acteurs, notamment des économistes, pour essayer de mieux chiffrer ça. L'optimisation fiscale, on peut la chiffrer. La fraude fiscale, c'est beaucoup plus dur puisque par définition, elle est dissimulée.
Alors on va rappeler justement ce qu'on met dans ce terme-là parce que on confond beaucoup les choses, Xavier Timbaud, en parlant à la fois de fraude fiscale, d'évasion fiscale, d'optimisation fiscale. Est-ce que vous pouvez nous en faire un petit peu la nuance ce matin?
Oui, c'est effectivement des nuances importantes. Il y a d'abord au départ la fraude fiscale qui est le fait de contrevenir à la loi à laquelle on est soumis. En matière fiscale, ça peut être par exemple de ne pas déclarer vos revenus.
C'est ça, ou en sous-déclarant en tout cas.
En sous-déclarant vos revenus, c'est un petit peu la fraude fiscale la plus simple, la plus accessible et pas nécessairement la plus pratiquée parce qu'elle est quand même relativement facile à
repérer.
Contrôler.
Oui.
Bon, voilà, donc là c'est assez simple parce qu'on a un cadre juridique et donc après c'est une question d'appliquer la loi et d'exercer le contrôle. Il y a ensuite une autre dimension qui est l'optimisation fiscale, donc qui consiste à dire. Ben, il y a une fiscalité qui est complexe et donc je peux choisir d'avoir des revenus qui sont plutôt sous forme de salaire ou sous forme de dividendes. Et ça va me permettre de payer éventuellement moins d'impôts.
Ce qui reste dans le cadre de la loi, c'est-à-dire qu'on peut jouer avec la loi pour optimiser aujourd'hui.
Voilà, ça reste dans le cadre de la loi, mais il a été ouvert une nouvelle dimension qui est liée à la libre circulation des capitaux et à la globalisation, et en particulier la globalisation financière, qui est le fait que vous pouvez choisir le cadre légal dans lequel vous vous trouvez. Et donc à ce moment-là, vous pouvez réaliser une forme d'optimisation qui n'est pas l'utilisation la meilleure possible du système qui est censé s'appliquer à vous, mais le choix du système fiscal que vous allez vous appliquer. Et ce choix, il va se baser sur le fait que, bah, dans les différents pays, il peut y avoir des règles fiscales qui sont différentes. Il peut y avoir des règles fiscales qui sont faites pour attirer des contribuables, en donnant des avantages à ceux qui arrivent.
Vous allez nous donner ça de quelques exemples. Voilà. Parlons de la Suisse, par exemple.
La Suisse, par exemple, mais c'est loin d'être le seul pays.
Oui.
Et donc, du coup, dans ce cas-là, on est dans ce qu'on appelle une optimisation fiscale agressive. C'est-à-dire que vous êtes dans le cadre de la loi, mais d'une loi qui devient quelque chose de diffus, puisqu'elle est mélangée entre la loi de différents pays. En quelque sorte, vous fabriquez vous-même votre loi fiscale.
Et quand on parle d'optimisation fiscale, comme vient de le décrire Xavier Tarbaud, Émilie Cariou, on parle de particuliers ou de sociétés plutôt?
Alors, il y a les deux cas de figure. On a des particuliers qui peuvent se domicilier fiscalement à l'étranger, donc partir de la France pour aller dans un pays...
Plutôt des grandes fortunes.
Plutôt des grandes fortunes, effectivement, des chefs d'entreprise. Et puis, on a une énorme optimisation fiscale qui porte sur les multinationales. Et en fait, c'est là le gros manque à gagner, et le gros manque à gagner qui a été chiffré au niveau de l'Union européenne,
oui.
C'est bien sur les multinationales. À tel point que l'OCDE, en 2012, s'est saisie de ce dossier et a lancé un vaste chantier pour revoir complètement les conventions fiscales. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les multinationales, elles ont des filiales dans plusieurs pays.
Oui.
Et elles peuvent décider de délocaliser une partie du profit par tout un tas de mécanismes. Alors, c'est un peu technique, hein, on appelle ça notamment les prix de transfert, par l'émission de titres dits hybrides qui vous permet de délocaliser des profits dans d'autres pays, via des États au sein de l'Europe qu'on appelle, nous, des états tunnels, parce qu'ils permettent la délocalisation ultime vers des paradis fiscaux.
Mmh.
Et
par
notamment,
exemple,
par exemple, l'Irlande,
oui.
Les Pays-Bas, le Luxembourg.
D'accord. Ils sont d'ailleurs très généreux avec les GAFA, hein, Google, Amazon, Facebook.
Tout à fait.
Pour l'instant,
bien
envie
évidemment, les GAFA ont choisi l'Irlande pour localiser leur base européenne. Donc, moi, ça fait des années que je travaille sur ces sujets-là, notamment dans la reprise en cours des négociations au niveau de l'OCDE pour mettre en place donc justement des nouvelles conventions. Donc, on a déjà beaucoup de nouveaux outils juridiques qui ont été créés. Et puis, au bout d'un moment, moi, j'ai travaillé à l'époque avec Arnaud Montebourg, avec Fleur Pellerin, Pierre Moscovici, sur ces sujets, notamment des GAFA, mais pas uniquement, puisque les autres multinationales pratiquent l'optimisation fiscale depuis fort longtemps aussi. Et puis, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que ça bloquait beaucoup à l'OCDE à cause des États-Unis qui n'ont aucune envie qu'on impose les profits des GAFA en Europe.
Évidemment.
Eux aussi se font flouer d'ailleurs, puisque les profits sont aux Bermudes, aux îles Caïmans.
Ouais.
Et donc, on est passé par des négociations au niveau européen. Donc, on a toute une série de directives qui ont été adoptées aujourd'hui. Je pourrais vous en détailler quelques-unes. Et puis, on a le vrai sujet qui est, notamment dans l'univers numérique, comment je localise aujourd'hui une entreprise. Les définitions qu'on employait jusqu'à présent ne fonctionnent pas avec des entreprises comme Google qui facturent des prestations complètement immatérielles, des prestations électroniques depuis n'importe quel pays du monde.
Très intéressant. Vous avez posé, Émilie Cariou et Xavier Tarbaud, les termes du sujet pour ce tour de la question qui nous amène jusqu'à 10h. Et je vais vous faire écouter, chers amis, juste après la pause, les propos du ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin, qui... explique qu'il met en place de nouveaux outils justement pour lutter contre cette fraude fiscale. Vous nous direz ce que vous en pensez, notamment parce qu'il veut s'appuyer sur les réseaux sociaux. On a l'impression que c'est un petit peu anecdotique, ou le petit bout de la lorgnette cette histoire. On en parle avec vous et n'hésitez pas à réagir au standard d'Europe 1. Si vous avez des questions, nos invités sont là pour vous éclairer. C'est le but aussi de cette émission, Julie.
Comment le gouvernement veut-il se servir des réseaux sociaux pour intensifier sa lutte contre la fraude fiscale? On fait le tour de la question ce matin jusqu'à 10h avec vous, Wendy Bouchard.
Avec nos invités, Xavier Tarbaud, analyste et directeur de l'OFCE, avec Émilie Cariou, députée La République En Marche, qui a travaillé longtemps dans l'administration fiscale, qui connaît ces sujets très précisément et qui nous éclaire aussi sur la question. Alors que Bercy veut récupérer cette année autour de 17 milliards d'euros, manque à gagner bien plus important si on parle de fraude, d'optimisation, d'évasion fiscale, mais 17 milliards d'euros qui pourraient revenir dans les caisses grâce à un certain nombre de dispositifs pour traquer cette fraude fiscale, avec une initiative qu'annonçait au mois de novembre dans le magazine Capital sur M6. Je voudrais que vous l'écoutiez, le ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin. Écoutez-le, on réagit.
Nous allons pouvoir mettre les réseaux sociaux dans la grande base de données que vous avez vue tout à l'heure, c'est-à-dire la permissivité de constater que si vous faites prendre en photo manifestement de nombreuses fois avec une voiture de luxe alors que vous n'avez pas les moyens pour le faire, peut-être que c'est votre cousin ou votre copine qui vous l'a prêté, et peut-être pas. Souvent, les Français se photographient eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Et c'est vos comptes personnels qui seront, puisqu'ils sont publics, regardés par expérimentation, je le redis ici. Donc la loi a été promulguée, nous les mettons en place sans doute au début de l'année prochaine, en même temps que la police fiscale et en même temps que tout ce que la grande loi faute que nous a présenté à la demande du président de la République se mettra en place dans les prochaines semaines.
Alors, on va parler de la police fiscale qui arrive, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de réseaux sociaux? On va aller traquer sur Facebook, sur Twitter, nos photos de vacances, si on est dans une grande villa, si on a une grosse voiture et si ça correspond à nos revenus, Émilie Cariou?
Alors absolument pas. D'ailleurs, ce n'est pas du tout ce qui a été adopté dans la loi fraude. Je pense que là, le ministre fait une confusion. Ce qui a été adopté dans la loi fraude, c'est que un certain nombre de données commerciales des réseaux sociaux vont être transmises automatiquement au fisc. Par exemple, quand vous louez un appartement ou quand vous faites de la vente de biens à titre professionnel.
D'accord.
Donc, il n'est pas du tout question d'aller regarder les photos de vacances. Et je peux vous dire que si on embraye le contrôle fiscal de ce côté-là, on ne va pas récupérer grand-chose.
Et pourtant, il dit que ça se fait sous le contrôle de la CNIL, Commission nationale informatique et liberté, qui serait permissive sur le sujet parce qu'on récupère de l'argent.
Je ne sais pas. Il n'y a pas ça dans la loi aujourd'hui. D'accord. La loi, elle a dit qu'un certain nombre de données commerciales, de transactions commerciales qui se font par les réseaux sociaux vont être transmises automatiquement, tout comme on transmet, par exemple, les salaires des personnes pour savoir qui doit être fiscalisé. Et donc, ça veut dire que très clairement que si vous louez votre appartement, vous savez que ça, c'est imposable. Par nature, c'est comme ça, c'est imposable. Oui, oui. Eh bien, les données de la plateforme par laquelle vous passez pour louer votre appartement seront transmises au fisc à titre de recoupement. Mais après, c'est à chacun de déclarer
c'est
ses revenus.
Et on verra.
Ce ne sera en aucun cas une déclaration automatique. Donc voilà ce qui est dans la loi. Il n'y a pas autre chose dans la loi. Et même à un moment donné, on avait eu un petit buzz parce que tout le monde pensait qu'on allait vouloir fiscaliser les ventes de biens sur le Bon Coin. Pas du tout. Et je le rappelle ici très clairement, les ventes de biens d'occasion de particulier à particulier ne sont pas taxables, ne l'ont jamais été et ne le seront jamais. Et c'est pourquoi j'ai introduit dans la loi un amendement pour faire en sorte que en fonction du nombre de transactions et de la valeur des transactions, en dessous d'un certain seuil, on ne déclare rien à l'administration fiscale.
Vous réagissez sur les réseaux sociaux comme Antoine de Nîmes sur Facebook, Xavier Timbaud. Qui sont les contribuables dans le collimateur finalement ? J'imagine que ce n'est pas le Français lambda qui crâne en voiture sur le port de Marseille qui va être scruté, pour revenir sur les propos de Gérald Darmanin. Comment l'administration va donc-elle faire son marché pour traquer plus efficacement les fraudeurs aujourd'hui ? Avec peut-être cette police fiscale, ces 40 nouveaux fonctionnaires qui vont... s'atteler à cette tâche ?
La police fiscale, c'est une dimension un petit peu différente parce que ça fait sortir du giron de l'administration la responsabilité de traquer la fraude fiscale. La fraude fiscale, c'est contrevenir à la loi. Or, c'était dans un régime un peu particulier qui était que vous pouviez contrevenir à la loi, mais ensuite négocier avec l'administration la nature de votre redressement fiscal. Et avec la police fiscale, on va entrer dans une autre dimension. Mais là, l'idée des réseaux sociaux, c'est vraiment une activité tout à fait marginale qui consiste à repérer le niveau de vie des contribuables. C'est une activité qui existe depuis tout temps dans l'administration fiscale, mais qui est quand même une dimension de la fraude fiscale qui est tout à fait limitée, et tout à fait limitée aujourd'hui parce qu'on recoupe les fichiers et donc... on a des idées assez précises de d'où peuvent venir les revenus. Mais,
oui, mais ça peut être utile, par exemple, sur la domiciliation fictive. C'est-à-dire qu'il y a quand même des contribuables qui s'expatrient ou au Portugal ou ailleurs et qui doivent justifier de vivre au moins 6 mois dans le pays pour payer leurs impôts là-bas. Alors avec les allers-retours sur Facebook, sur Twitter, si ça ne se recoupe pas dans le temps, là, pour le coup, l'administration peut agir.
Elle pourrait agir, donc ça peut, dans un certain nombre de cas, peut-être donner une information
c'est
qu'on
n'avait
pas
en effet,
par ailleurs. Mais c'est vraiment marginal et c'est vraiment pas grand-chose par rapport à, par exemple, le fait qu'il y a maintenant un échange d'informations automatiques sur vos opérations bancaires qui va permettre, là, de savoir où vous dépensez votre argent, ce qui est un élément de preuve qui est bien plus important pour savoir où est-ce que vous êtes résident.
On parlera de la convergence européenne dans un instant, Émilie Cariou. Il y a une autre possibilité dans la loi, je crois, c'est le name and shame, c'est-à-dire le nom des entreprises condamnées pourrait être rendu public, ce qui, par phénomène d'émulation, on pourra calmer les autres.
Alors, en fait, vous savez, le contrôle fiscal, il se déroule pour savoir s'il y a de la fraude. S'il y a fraude fiscale, il faut faire un contrôle pour calculer l'impôt, etc. À la fin d'un contrôle fiscal, le dossier il est mené ou pas au pénal. Hein. Mais de toutes les manières, il y a toujours une condamnation financière faite par le fisc. Il n'y a jamais de transaction sur le montant de l'impôt à payer, le montant des pénalités fiscales. Et après, donc, ce qu'on a fait dans l'ouverture du verrou de Bercy, c'est qu'on a créé des cas de transmission automatique au parquet, on a créé des nouveaux pouvoirs au parquet, on a levé complètement le secret fiscal vis-à-vis des juges. Oui. Et donc tout ça, ça va être des nouveaux outils à la disposition de la justice. Et c'est des outils qui ont pour but de faire en sorte que l'administration fiscale et la justice se parlent. Sur le name and shame, là, on est sur les dossiers qui ne vont pas forcément au pénal. Donc c'est des dossiers d'entreprise qui ont fait l'objet d'un redressement et sur lequel aujourd'hui ils sont protégés par le secret fiscal. Là, on dit dans un certain cas de nombre de cas de figure, donc avec des pénalités, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste sur la correction d'une erreur, on est vraiment sur des cas avec manœuvre frauduleuse. Dans ce cas-là, on pourra publier effectivement les sanctions administratives, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et ça, c'est important parce que beaucoup de pays pratiquent ça et ça a une vertu un petit peu... comment dire, ben voilà, on jette l'opprobre sur quelqu'un voilà. Et puis ça calme un peu
ça
tout
calme,
le monde.
Ça calme un peu. Alors la France en fait-elle assez en la matière, en matière de traque des fraudeurs au fisc, optimisation, évasion fiscale? Nos invités sont là pour faire le tour de cette question avec nous. Xavier Timbaud de l'OFCE, Émilie Cariou. Larbi nous écrit sur Facebook, seul un choix politique pourra enrayer cette fraude fiscale, mais pour cela il faut des politiques ni coupables, ni complices. On y revient dans un instant, n'hésitez pas à réagir sur le sujet au 39-21. On vous attend avec Julie.
La France a-t-elle vraiment œuvré pour lutter contre la fraude et l'optimisation fiscale ces dernières années? On en parle avec Wendy Bouchard et ses invités. Émilie Cariou, qui est députée La République En Marche de la Meuse et spécialiste du sujet de la fraude fiscale. Et Xavier Timbaud, analyste et directeur de l'Observatoire français des conjonctures économiques.
Avec les solutions mises en place par ce gouvernement, avec la loi fraude mise en place dans quelques semaines maintenant, Émilie Cariou, Xavier Timbaud, vous allez réagir sur ce sujet. Alors qu'on rappelle les sommes en jeu... Estimation de la Cour des comptes, 25 milliards d'euros de manque à gagner avec cette fraude fiscale, cette évasion, cette optimisation. Il y a un syndicat qui voit beaucoup plus haut, le syndicat Solidaires Finances Publiques, qui l'estime à 100 milliards d'euros par an. Ce qu'on sait, Xavier Timbaud, c'est qu'il faut faire des rapports. L'impôt sur le revenu, ça rapporte à peu près combien en France chaque année?
L'impôt sur le revenu, c'est entre, je ne vais pas vous dire une bêtise, entre 50 et...
70 milliards d'euros.
70 milliards, oui.
Oui, c'est ça. Donc, quand on agite les 80 ou 100 milliards d'euros par an de manque à gagner de la fraude fiscale, évidemment, on est aussi dans un outil politique. C'est-à-dire, alors, voyez, laissez filer à côté et vous nous ponctionnez de l'autre.
Voilà, enfin, c'est intéressant d'avoir quand même cet ordre de grandeur. Alors, il est très discutable, hein, parce qu'il y a des choses qu'on peut à peu près arriver à estimer et à observer dans l'optimisation fiscale. Il y a la dimension évasion fiscale qui constitue en fait un gros morceau de ces 100 milliards. Mmh. Et là, on a plus de mal à l'estimer. Les méthodes qu'on utilise sont des méthodes très indirectes qui consistent par exemple à regarder combien il pourrait y avoir d'avoirs, d'actifs, oui, qui sont localisés dans ce qu'on appelle les paradis fiscaux.
D'accord.
Et donc qui échappent aux administrations fiscales en Suisse, à Singapour. Et de dire, une partie de ces actifs vont être détenus par des Français et qui ne payent, merci, pas d'impôts sur les revenus, mm-hmm, sur la fortune, à l'époque où il y en avait un. D'impôt sur la fortune, sur les produits financiers, sur ces actifs localisés à l'étranger. Mais là, c'est des méthodes qui sont assez complexes à mettre en œuvre, avec beaucoup d'incertitudes. Donc 100 milliards, ça constitue, disons, plutôt un majorant ou un ordre de grandeur. Par contre, c'est un chiffre qui est quand même très important, parce que, vous le rappeliez, il est supérieur au rendement de l'impôt sur le revenu. Et donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que si on mettait fin à toute optimisation et fraude fiscale, on aurait... Même, imaginons,
on pourrait baisser la pression fiscale,
vous
voulez dire.
Mais oui, on changerait quand même complètement, effectivement, la pression fiscale.
Oui.
Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est d'un ordre de grandeur qui est suffisamment important pour avoir un impact sur la façon dont on prélève l'impôt sur tout le monde.
Bien sûr. Voilà. Et voilà pourquoi c'était au cœur aussi de la contestation sociale de ces dernières semaines, Émilie Cariou, et qu'on a rebrandi chez les Gilets jaunes cette nécessité de traquer justement tous les fraudeurs. Il faut savoir que quand même, ça fait depuis 7-8 ans que la France multiplie les outils, multiplie la traque et la transparence sur le sujet. Notamment... avec la transparence des banques, qui ne peuvent plus dissimuler ou en tout cas couvrir certains clients comme elles le faisaient auparavant.
Tout à fait. Alors, ce problème de justice fiscale, bien évidemment, ça fait des années que l'OCDE, la France et l'Union européenne se sont saisis de ce sujet-là. Parce que, parce qu'on parle beaucoup des particuliers, des personnes, des gros patrimoines, mais moi, je tiens à préciser que le problème, il est sur les multinationales aujourd'hui.
Voilà,
en une
ça.
Multinationale, vous récupérez autant d'impôts que sur 60
reste,
millions de Français.
Oui.
Je veux dire, il faut bien se rendre compte des enjeux qu'il y a. Ce sont des entreprises qui font des dizaines de milliards de chiffres d'affaires. Donc, vous voyez ce que ça peut donner en résultat taxable. Donc, effectivement, l'Union européenne s'en est saisie. Parce que moins on fait payer les multinationales, et plus on fait payer les foyers. Mmh. Et plus on fait porter la pression fiscale sur la consommation. Ce qui est absolument catastrophique. Et on en arrive au sujet des gilets jaunes.
Oui.
Parce que ce qui s'est passé, c'est que Sarkozy, par exemple, à l'époque, il passe la TVA sur les produits de première nécessité de 5 à 7%. Mmh. Et puis sous François Hollande, on passe de 7 à 10%. Donc, vous voyez qu'on passe une TVA sur les produits de première nécessité de 5 à 10% en l'espace de 7 ans. Mais pourquoi? Parce que les caisses sont vides, parce qu'on a des déficits. Et donc, si on arrive à faire payer les multinationales, bien évidemment, on renforce nos recettes fiscales, mais sans appuyer la pression sur les ménages. Donc, les outils qui ont été mis en place là, depuis plusieurs années, ils visent effectivement la transparence bancaire. Mm-hmm. Ça, c'est important. Moi, il y a 20 ans, quand j'ai commencé à bosser, on n'avait aucune transparence
bancaire.
Vous
travaillez dans l'administration fiscale à l'époque.
À l'époque, je vérifiais des multinationales.
C'est ça. Ouais.
Voilà. On n'avait pas de transparence bancaire. C'était extrêmement compliqué d'avoir de l'information. Maintenant, tous les pays au sein de l'Union ont signé des accords d'échange d'informations.
Échange automatique bancaire. D'informations fiscales.
Échange aussi sur ce qu'on appelle les rescrits fiscaux ou les rulings. C'est-à-dire que c'est des accords particuliers qui sont donnés notamment par le Luxembourg pour faire payer moins d'impôts à une entreprise.
D'accord.
Donc comme ça, on sait exactement quand on voit la filiale d'une boîte française au Luxembourg, on va pouvoir demander comment elle est réellement imposée. Parce que le but des conventions fiscales, c'est de ne pas imposer deux fois le même produit.
Oui.
Mais le but, c'est pas de ne pas non imposer deux fois. Mmh. Or, ce qu'a constaté l'OCDE quand il a commencé à travailler sur ce sujet, c'est que le cumul des réglementations et des conventions fiscales avait abouti à des règles, à des, finalement, l'application de double non-imposition. Et on en arrive à des gens qui ne sont imposés nulle part.
Ça, c'était du laisser-faire. Ce n'était pas du laisser-aller, c'était du laisser-faire.
Disons qu'on a des avocats fiscalistes extrêmement performants et qui trouvent la faille des conventions fiscales qui étaient beaucoup trop complexes, qui sont complexes d'application. Donc, on a toiletté tout ça au niveau OCDE, au niveau communautaire, parce que c'est quand même très important de travailler maintenant ce sujet de l'impôt sur les sociétés, notamment au niveau communautaire. Ça l'était très peu. Hein, on avait juste des directives TVA, mais quasiment rien au niveau de l'impôt sur les sociétés. Et donc, on a un certain nombre de directives pour rendre donc beaucoup plus transparent les montages fiscaux, les rescrits, etc. En fonction de ça, on va pouvoir dire, oui, tel flux financier part dans tel pays. En fait, il n'est pas imposé, donc j'ai le droit de l'imposer en France.
D'accord.
Parce qu'on a des outils dans le Code général des impôts qui nous permettent d'imposer des produits en France quand ils sont sous-imposés
ailleurs.
Ça,
c'est rétroactif. Alors, ça peut se faire par rattrapage, le temps de l'enquête.
Non, enfin, généralement, vous savez,
la loi
quand même, on est dans un état
hein,
de droit, donc c'est compliqué d'être rétroactif. Mais cela étant, quand on fait un contrôle fiscal, on peut aller 3 ans en arrière, donc on peut quand même récupérer des sommes importantes.
Oui.
Ce qui compte, c'est que maintenant, ces outils, ils sont adoptés. On les a tous transposés les uns après les autres en droit français. On a aussi une directive qui porte sur la déclaration pays par pays, ce qui va nous permettre de savoir très exactement où sont réalisés les profits des multinationales au sein de l'Europe. Voilà. Et tout ça va monter en puissance. Mais sur l'échange bancaire, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, ça c'est un outil très puissant, qui va donner vraiment beaucoup de données à disposition des administrations. Après, il faut exploiter les données. Et donc là, on a besoin quand même de personnel dans l'administration fiscale pour exploiter les données.
Quand Émilie Cariou décrit tout ça, on a l'impression vraiment d'un dispositif assez performant. Je vais vous demander, Xavier Timbaud, si la France peut se faire un point d'honneur dans cette lutte maintenant. Alors peut-être un peu en retard, mais depuis 2012 et les annonces de François Hollande et les engagements, justement, on a le sentiment quand même qu'elle est en matière de fraude, de lutte contre la fraude, une bonne élève. À tout de suite avec vous, Xavier Timbaud de l'OFCE, avec vous, Émilie Cariou, qui connaissez bien ce sujet. Vous nous rappellerez que vous avez contribué à faire sauter le verrou, le fameux verrou de Bercy. Qu'est-ce que c'est ? Pour ceux qui nous rejoignent, à tout de suite au 3921. Cher Julie, on vous attend aussi sur les réseaux sociaux.
Nous parlons jusqu'à 10h de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale avec Wendy Bouchard et ses invités.
Émilie Cariou, députée La République En Marche de la Meuse, spécialiste du sujet. Vous avez travaillé pour traquer les fraudeurs à l'administration fiscale, notamment les multinationales, pendant de longues années. La lutte contre la fraude et l'évasion fiscale qui n'était pas une priorité du quinquennat Macron. Xavier Timbaud, vous le savez bien, comme directeur de l'OFCE, qui appréciait aussi ses analyses sur ces sujets-là. Mais il y a quand même cette loi contre la fraude fiscale qui devrait connaître ses premières applications cette année, et avec la contestation sociale des Gilets jaunes, on se demande bien comment le gouvernement pourrait passer à côté de cette question-là. Xavier Timbaud, la France en fait-elle assez sur le sujet ? Depuis 2012, maintenant, il y a une montée en puissance très clairement, justement, de ces opérations anti-fraude, avec 17 milliards d'euros récupérés à peu près chaque année.
Oui, alors, est-ce qu'on en fait assez ? On n'en fait jamais assez en la matière, parce qu'il y a aussi une espèce de course contre la montée en charge. Pas tellement de la partie fraude, mais de la partie optimisation agressive. La multiplication, par exemple, des acteurs du numérique ou des multinationales, des grandes marques qu'on consomme tous les jours. Derrière chacune de ces grandes marques, on ouvre des possibilités d'optimisation fiscale agressive. Et donc, il faut aller plus vite que ça pour essayer de rétablir les recettes fiscales. On pourra dire aussi peut-être un petit mot sur la question de l'impôt sur les sociétés, qui a tendance à diminuer partout en Europe, et qui là, en fait, avec l'Europe, on a quand même construit un espace de concurrence fiscale,
oui,
qu'aujourd'hui, on ne sait pas maîtriser.
C'est intéressant, pourquoi ça baisse partout en Europe ? Parce que justement, on trouve les moyens de faire baisser l'imposition.
Ça baisse partout en Europe parce que, comme il n'y a pas d'accord sur une imposition sur les sociétés minimales, il reste toujours intéressant d'aller installer sa société dans un pays où il y a un petit peu de moins 10 ans fiscal.
Mm-hmm.
Et donc, par peur de voir partir la base fiscale, du coup, vous abaissez votre taux d'impôt en vous alignant sur le taux le plus bas pour attirer à nouveau la base fiscale. Mais le processus, à la fin, il est connu. C'est qu'à la fin, on ne taxe plus ce qui est mobile et on ne taxe uniquement ce qui est immobile. Alors, ce qui est immobile, c'est précisément la consommation des gens qui ne sont pas très, très riches parce qu'ils sont moins mobiles que les autres.
Ouais.
Voilà. Donc, si on veut éviter ça, parce que ça crée une injustice énorme, si ceux qui sont mobiles, soit parce que ce sont des entreprises, des grandes entreprises en plus, plutôt que des petites entreprises, ou des gens aux revenus très élevés parce qu'ils peuvent aller se localiser et avoir recours à des montages un peu sophistiqués pour rendre mobile à la fois leurs revenus et leur consommation, bah, on va faire reporter on va avoir moins de fiscalité sur cela et plus sur les gens ordinaires comme vous et moi. Et donc effectivement, on va générer
encore l'injustice, bien sûr,
et de refus de diminution du consentement à l'impôt, ce qui est
au
un
cœur.
Phénomène dramatique et qui est au cœur évidemment
au cœur des sujets de la contestation ces derniers jours.
De cette année, oui.
Émilie Cariou, vous travaillez sur ces phénomènes depuis 20 ans. Vous avez clairement vu une prise en main, une prise de responsabilité de l'État français sur ces questions-là.
Mais j'ai vu aussi la situation se dégrader au cours des années 2000, c'est-à-dire quand on a commencé à avoir des échanges, cette globalisation effrénée, le fait que les flux financiers se multiplient en un clin d'œil, on puisse délocaliser des revenus partout dans le monde, on a vu effectivement les résultats, notamment des grandes entreprises, s'effondrer. Quand l'OCDE se saisit du problème, il parle de base erosion and profit shifting, c'est-à-dire l'érosion des bases et le glissement des profits, c'est-à-dire qu'on voit que l'impôt sur les sociétés est en train de s'amenuiser. Donc, effectivement, ça a été une des thématiques de campagne à l'époque en 2011-2012.
Oui.
Hein, et c'est vrai qu'en 2012, la France reprend un peu le taureau par les cornes, va à l'OCDE, à l'Union européenne pour reprendre tout ça. Aujourd'hui, effectivement, la concurrence fiscale et sociale au sein de l'Europe, c'est vraiment une catastrophe. Ça nous mène au populisme, ça mène au mouvement qu'on voit aujourd'hui.
Il n'y a aucune harmonie fiscale.
Il n'y a pas d'harmonie sociale.
Oui.
Moralité, ce qui vient d'être décrit est tout à fait exact, c'est-à-dire qu'on va se loger là où l'imposition est la moins élevée. Donc il y a urgence à harmoniser. Il y a notamment un projet de directive très intéressant qui est en cours de négociation qui s'appelle l'assiette consolidée à l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire qu'on aurait un impôt sur les sociétés européens. Comme ça, il n'y aurait plus d'histoire de concurrence fiscale entre les États. Ça, c'est un outil qui serait très intéressant, c'est-à-dire que une entreprise qui a plusieurs établissements dans plusieurs États de l'Europe, elle fait une base européenne et on paye un impôt européen.
D'accord.
Donc cette directive, la France la pousse, l'Allemagne la pousse aussi. Voilà, ça
qui
met
est peut-être
du temps.
Plus réaliste qu'une harmonisation fiscale, qui a priori
voilà,
ne verra jamais le jour.
C'est un premier pas. Après, ouais. On aura toujours le sujet des taux d'imposition. Et moi, je pense qu'il serait raisonnable d'imposer des taux d'imposition à une fourchette de taux. Je sais pas, entre 20 et 30, entre 20 et 25, j'en sais rien. Nous, on va arriver à 25% d'imposition. Vous savez que la France, on avait le
pour
taux
les entreprises.
Voilà, pour les entreprises. On avait le taux le plus élevé du monde.
En France,
quasiment.
On
est 33,1 tiers plus des contributions. On arrivait régulièrement à 35% d'impôts. Le seul pays dans le monde qui avait des taux aussi élevés, ouais. C'était les États-Unis. Trump, réforme fiscale, il baisse l'impôt fédéral à 21%, plus les taxes fédérées, on arrive à 25%. Nous, on va baisser l'impôt sur les sociétés en France pour atterrir à 25%. Et là, on sera dans la moyenne des pays de l'OCDE, notamment des pays de l'Union européenne. Ce qui me paraît bien, si en même temps, on assainit les bases fiscales. C'est-à-dire, aujourd'hui, on avait un taux très élevé, mais qui était avec une assiette mitée, puisque tout le monde faisait de l'optimisation. Donc, si on baisse les taux, il faut absolument que là, on ait une vraie assiette et qu'on n'ait plus cette optimisation fiscale. Alors, on a déjà commencé à assainir, justement, la base de prélèvement de l'impôt sur les sociétés, notamment dans la dernière loi de finances, où on a travaillé sur un régime qu'on appelle le régime de l'intégration fiscale, c'est-à-dire comment j'impose un groupe en France, où là, déjà, on a mis fin à un certain nombre de cas très optimisants.
D'accord. Et en Europe, qui porte la voix que vous défendez aujourd'hui, Émilie Cariou? Est-ce qu'elle est vraiment partagée?
En fait, ceux qui ne portent pas cette voix, ce sont souvent des micro-États ou des États qui n'ont pas du tout les mêmes intérêts que nous. Bon, le Luxembourg, bien évidemment. On ne pourra jamais être en concurrence loyale avec des micro-États comme le Luxembourg.
Non.
Ils n'ont pas besoin de recettes fiscales. Ils n'ont pas besoin de construire des ponts, des hôpitaux, des universités comme la France.
Mais comme l'Irlande que vous citiez n'a pas envie de taxer aujourd'hui les GAFA. Et voilà pourquoi la France commence à faire cavalier seul sur
Parce
le sujet.
Parce que l'Irlande, elle a un problème d'emploi. Quand elle a commencé, l'Irlande, elle a commencé avant les GAFA avec ce qu'on appelait dans les années 90 les docks de Dublin, qui étaient des zones défiscalisées. Et à ce moment-là, elle commence à devenir la base européenne des entreprises américaines. ils commencent à localiser leur siège en Irlande. Et puis après, ça s'est démultiplié avec les GAFA. Mais eux, ils cumulent plein d'exonérations. C'est-à-dire que sur la réglementation aussi des données personnelles, vous savez, la réglementation chez nous qu'on appelle la CNIL, eh bien, en Irlande, elle est extrêmement permissive. Moralité, les GAFA, ils sont allés en Irlande pour les données personnelles, pour la fiscalité, pour le droit commercial, pour tout un tas de dérégulations.
Aucun intérêt d'un parti.
Et là, on a régulé aussi sur les données personnelles. Donc vous voyez, la réponse souvent, elle sera au niveau européen sur ces sujets-là.
Alors on va revenir sur les GAFA justement. La France qui va faire cavalier seul, le gouvernement qui, depuis le 1er janvier, a décidé d'une taxe de 3% sur le chiffre d'affaires de ces sociétés réalisées en France. Vous voyez comment la lutte s'accélère sur ces sujets-là. Alors que Bercy veut récupérer pour l'évasion fiscale, pour la fraude fiscale qui concerne les contribuables français, 17 milliards d'euros chaque année. A tout de suite avec nos invités avec Julie sur Europe.
Europe 1.
Retour à notre sujet du jour jusqu'à 10h, la fraude et l'évasion fiscale. Les nouvelles technologies vont-elles en venir à bout?
En tout cas, Bercy souhaite récupérer 16-17 milliards d'euros par an alors que les estimations vont un peu dans tous les sens. Le syndicat Solidaire Finances Publiques estime cette fraude fiscale, cette évasion à 100 milliards d'euros par an. Émilie Cariou, l'une de nos invitées, députée de La République En Marche, experte sur le sujet, députée de la Meuse, nous expliquait qu'il est très difficile, évidemment, par définition, d'estimer une fraude. La Cour des comptes l'estime plutôt à 25 milliards d'euros. C'est une somme de toute façon et un manque à gagner. Xavier Thimbault est avec nous, analyste et directeur de l'OFCE, qui a nourri les critiques, qui a nourri aussi la contestation populaire et sociale des dernières semaines. Alors voyons comment la France essaie justement, ou je ne sais pas, de se racheter une conduite, en tout cas d'investir vraiment ce sujet depuis maintenant 2012, y compris au niveau européen, comme ça a des difficultés à avancer. Émilie Cariou nous le disait, elle décide d'une taxe elle-même de 3% sur le chiffre d'affaires des sociétés, les GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon. Voilà, pour marteler qu'elle a envie de ne plus laisser passer cette impunité.
Alors, tout à fait, c'est une démarche assez intéressante. D'abord parce qu'elle est très concrète et qu'elle va donner des résultats. Les ordres de grandeur sur lesquels on est, c'est un demi-milliard d'euros. Donc, vous voyez, on est loin des 100 milliards, mais on ne peut pas qualifier cette somme de négligeable. Alors, il y a un autre point intéressant, c'est que vous dites que la France fait cavalier seule, mais en fait, elle n'est pas la seule à faire cavalier seule. Il y a d'autres pays qui font cavalier seul avec la France. Donc, l'Angleterre a déjà mis en place une taxe de ce type-là. L'Italie a évoqué la possibilité. Il y a quelques autres pays qui seraient prêts à faire la chose. Alors, il y a deux formes de... Enfin, pourquoi la France le fait d'abord? Parce qu'il y a une proposition pour taxer les GAFA au niveau européen. Mais aujourd'hui, cette proposition est bloquée. Elle est bloquée face à deux types d'opposition. Alors, il y a des pays qui sont contre parce que, par exemple l'Irlande, parce que ça changerait le régime de fiscalité des GAFA. Et, ça
les ferait partir, éventuellement.
Et puis ça permettrait plus à l'Irlande de bénéficier de cette optimisation fiscale dont ils ont largement bénéficié. Puis après, il y a d'autres... il y a un pays, évidemment, qui bloque énormément sur cette question, qui sont les États-Unis, puisque les GAFA étant principalement américains, et Donald Trump par
qui ne payent pas non plus leurs impôts sur le sol américain.
Oui, mais ils en payent un peu plus finalement quand même sur le sol américain qu'ils n'en payent ailleurs. Et puis par ailleurs, même s'ils ne payent pas des impôts, ils ont des employés, ils ont des actionnaires, ils participent à l'innovation et à l'activité de l'économie américaine par des emplois. Donc du point de vue américain, même s'ils ne payent pas des impôts, ils sont quand même américains et donc il faut les défendre parce qu'après tout, ces impôts qu'ils ne payent pas dans le reste du monde, c'est autant de masse salariale ou de profit qui sont localisés aux États-Unis.
Aujourd'hui, les GAFA payent à peu près 9% d'impôts sur l'équivalent de notre impôt sur les sociétés, qui est à 25 ou 33% chez nous, donc c'est très peu. Avec cette mesure, ces 3% de taxes, la France pourrait récupérer 500 millions d'euros par an.
Oui, c'est ce qui a été estimé par le ministère des Finances.
C'est un coup d'épée dans l'eau, mais c'est déjà ça?
Oui, c'est déjà ça, mais l'enjeu, très clairement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'aller récupérer l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire l'impôt sur les résultats.
Oui.
Et donc ça, on ne peut le faire, hélas, qu'en avançant dans les instances multilatérales.
Ensemble,
voilà. Alors, sur les États-Unis, effectivement, mais Trump, il a quand même été très malin sur sa réforme fiscale. C'est-à-dire que là, maintenant, il dit aux GAFA, je vous laisse le droit de rapatrier vos profits et je ne les imposerai qu'à 15%. Et vous aurez 8 ans pour payer. Et après, en revanche... Ce que vous n'avez pas rapatrié, moi, je vais l'imposer dans une base mondiale aux États-Unis. Or, si on continue à conserver des paradis fiscaux au sein de l'Europe, il sera fondé à dire, moi, je vais récupérer l'assiette fiscale de ces boîtes que vous avez aussi en Irlande. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui urgence à mettre la pression sur
l'Europe,
Irlande, Pays-Bas, Luxembourg, pour qu'on arrête sur les pratiques fiscales extrêmement dommageables qu'ils infligent à l'Europe entière
et à ce siphonnage des recettes fiscales qu'ils infligent.
Sinon, ça sera perdant-perdant. Hein.
Donc Pierre Moscovici l'a dit très clairement dans une audition il y a peu de temps à la Commission des finances, dont je suis membre. Et il a évoqué l'idée, le commissaire européen en charge de la fiscalité, qu'on puisse changer la règle. Parce que pour changer les règles fiscales au sein de l'Europe, il faut l'unanimité des voix. Oui. Et lui, il dit, on va demander à changer la règle pour qu'on soit à la majorité et plus à l'unanimité. Et je pense que c'est une très bonne chose et que c'est un des enjeux de l'élection européenne qui va se dérouler dans quelques mois.
La France qui intensifie sa lutte contre la fraude fiscale, l'optimisation fiscale, l'évasion fiscale. On parlait des GAFA à l'instant, mais on va revenir sur le sol français avec une réforme que vous avez eu du mal à faire passer, mais que vous avez obtenue, Émilie Cariou et Xavier Timbaud de l'OFCE nous en parlera également. La fin du verrou de Bercy. Qu'est-ce que c'était que cette histoire? On vous raconte tout ça dans un instant. Encore quelques minutes ensemble avant de parler de Houellebecq et des phénomènes littéraires. A tout de suite.
Retour à notre sujet, la fraude fiscale et les outils numériques qui sont chargés de lutter contre. On est ensemble jusqu'à 10h avec Wendy Bouchard.
Émilie Cariou est avec nous, députée La République En Marche de la Meuse, spécialiste du sujet. Xavier Timbaud, analyste et directeur de l'OFCE. Y aura-t-il plus de contrôles fiscaux dans les semaines à venir avec cette police fiscale aussi qui devait être mise en place dans les semaines qui viennent, Émilie Cariou, pour activer cette lutte contre la fraude, l'évasion, l'optimisation?
Alors, aujourd'hui, le contrôle fiscal, c'est 50 000 dossiers par an,
et
dont 1 000 aboutissent au pénal, c'est-à-dire aboutissent à une condamnation pénale. Mm-hmm. Les autres font l'objet de redressements classiques de l'administration fiscale. Avec la réforme qu'on a adoptée là, sur le verrou de Bercy, on estime qu'on va au moins multiplier par 2 ou 3 le nombre de dossiers portés au pénal parmi ces contrôles fiscaux. Donc en fait, pour vous dire ce qu'était le verrou de Bercy, c'était en fait le monopole qui était réservé au ministère du budget pour l'ouverture des plaintes pour fraude fiscale. Mmh. Ce qui voulait dire que même quand un procureur, au cours de son enquête, découvrait des faits sur lesquels il pouvait présumer qu'il y avait fraude fiscale, il ne pouvait rien faire à part transmettre l'information au fisc. Et après, il ne suivait pas du tout ce qui se passait. Donc, ce qu'on a fait donc, dans la réforme, c'est que pour les dossiers qui émanent du contrôle fiscal, on a créé des cas de transmission automatique au parquet. Parce que finalement, aujourd'hui, c'était l'administration fiscale qui se comportait elle-même comme un parquet
ça, qui disait,
en disant « oui, je porte plainte ou je ne porte pas plainte ». Or ça, normalement, c'est le monopole du procureur. Hey.
Non,
et donc c'est une atteinte à la séparation des pouvoirs.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bercy s'en accommodait, qu'on voulait protéger certains?
Non, c'est surtout qu'ils portaient les dossiers qui étaient complètement verrouillés, où ils étaient sûrs qu'il n'y avait aucun problème. Vous savez, on est sur des sujets juridiques extrêmement complexes, où souvent l'administration perd. Elle perd devant le tribunal administratif. Or, si elle perd devant le tribunal administratif, ça veut dire que l'impôt n'est pas dû, ça veut dire que vous allez perdre aussi au pénal.
D'accord.
Donc en fait, ils n'envoyaient que des dossiers complètement verrouillés. Mmh. Or, les dossiers qu'on a cités tout à l'heure d'optimisation fiscale, souvent, on les redresse sous l'angle de l'abus de droit. C'est-à-dire que c'est des dossiers où on essaie de démontrer que l'usage du droit a été abusif. Et tout ça, c'est fragile juridiquement, c'est compliqué. Donc là, on a dit, quand on dépasse un certain montant de droits, d'impôts éludés et de pénalités, transmission automatique au parquet. Mmh. Pour les dossiers qui sont inférieurs à ces seuils, l'administration pourra aussi les transmettre s'ils sont graves. Mais ce qu'on veut porter au pénal, bien évidemment, c'est les gros dossiers.
Bien
parce
sûr.
Que c'est eux qui on veut, si vous voulez, aller imposer le kebab qui a fait de l'argent au black. C'est ce qui se fait aujourd'hui très régulièrement. Je suis désolée, les
ça,
enjeux, ils ne sont pas là.
Vous,
les enjeux, ils sont plus sur Google ou d'autres, ou des banques, par exemple, que d'aller pénaliser des petits commerces. Même s'il faut le faire aussi, bien évidemment, mais on ne peut pas faire que ça. Ce qu'on a fait aussi du côté du procureur, c'est que sur ses enquêtes à lui, aujourd'hui, quand il découvre des faits, je vous l'ai dit, il peut juste transmettre une information au fisc. Là, on a levé le secret, parce que le secret fiscal était tellement absolu que même le procureur n'avait pas accès aux informations fiscales. Mmh. Aujourd'hui, dans la loi, dans l'amendement qu'on a porté sur le verrou de Bercy, on a levé complètement le secret fiscal vis-à-vis des parquets. Ça, c'est une réforme majeure dont on ne mesure pas aujourd'hui les effets.
Mais nous, ce qu'on mesure, c'est l'opacité, l'omerta qui régnait quand même jusqu'à présent sur ces sujets-là. Malgré tout, vous connaissez très bien depuis 20 ans le sujet, Xavier Timbaud, et vous aussi comme directeur de l'OFCE. Donc, c'est en train de changer aussi dans les mentalités de l'administration, j'allais dire, en France aujourd'hui.
Oui, c'est en train de changer dans les mentalités de l'administration. Et le fait de faire sauter le verrou de Bercy va évidemment changer la nature du contrôle fiscal et va... Le transmettre plus dans la sphère judiciaire en insistant sur cette séparation des pouvoirs qui est quand même un élément essentiel. Bon, ceci étant dit, ça va beaucoup changer, mais on ne peut obtenir des résultats que quand on applique une loi. Or, une grande partie de l'optimisation fiscale, elle est liée au fait, encore une fois, que les contribuables peuvent choisir leur, euh, lieu de taxation,
oui.
Et peuvent optimiser leur lieu de taxation.
Ça, on ne pourra pas, pour le coup, entraver voilà. leur liberté de...
Et ça, ça ne se résout que par des accords internationaux voilà. qui empêchent cette possibilité. On parlait tout à l'heure d'Axis, l'assiette fiscale uniformisée. Voilà, même s'il n'y a pas de taux uniforme, le fait d'avoir une assiette uniformisée fait que vous allez taxer de la même façon, vous allez traiter fiscalement de la même façon la dette dans une entreprise en France et en Allemagne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, ce qui permet à une entreprise allemande de localiser dans des filiales françaises la dette du groupe, parce que ça va permettre de réduire l'impôt en France et du coup, d'évader en partie l'impôt dû en Allemagne. Et donc aussi en France.
Il y a des montages financiers absolument incroyables. Hein. Vous avez vous heurter à des choses phénoménales.
En plus, les cabinets d'avocats sont très imaginatifs et donc forcément, ça changera toujours. Il y aura toujours des nouveaux montages.
Et qui s'adapteront toujours à la loi.
Le cas qui vient d'être cité sur les intérêts financiers de la dette, ça c'était un mécanisme d'optimisation très courant. Je m'auto-prête de l'argent et je déduis des intérêts financiers que je me dois moi-même. Ouais, avec plusieurs entités partout en Europe. Et notamment sur les cas de LBO, qui sont des cas de rachat financier d'entreprise, on avait comme ça une bulle financière qui s'était créée avec un surendettement des holdings françaises. Donc là-dessus, on vient justement de transposer dans la loi de finances une directive qui traite justement de la manière dont je plafonne mes intérêts déductibles de mon résultat, les intérêts financiers. Donc ça, c'est un outil très concret qui entre en vigueur maintenant. Vous voyez, en fait, la lutte, ça ne peut pas être simple, ça ne peut pas être uniforme. C'est une multitude d'outils juridiques et financiers qu'il va falloir cumuler comme ça. Donc, et ça entre en vigueur là, petit à petit.
Voilà, après, il faudra expliquer que si l'on récupère 17 milliards d'euros par an, on peut éventuellement baisser la pression fiscale sur les contribuables, notamment sur l'impôt sur le revenu.
17 milliards, c'est ce qu'on récupère aujourd'hui à peu près. Hein. Le contrôle fiscal n'a fait qu'augmenter en termes de rendement depuis 15 ans.
Ça ne suffit pas pour l'instant à baisser la pression.
Non, mais après, on peut augmenter parce qu'encore une fois, il y a du manque à gagner sur l'impôt sur les sociétés aujourd'hui.
Aussi, hein. Voilà.
Et donc, c'est là, pour moi, c'est là que sont les gros enjeux, encore une fois.
Ça sera l'occasion d'une autre émission.
Il y a les gros contribuables, certes, mais c'est surtout les sociétés.
Merci infiniment de votre expertise. Vous avez été accessibles l'un et l'autre. Je vous remercie pour un sujet à la fois passionnant, mais très pointu quand même. Xavier Thinvault de la FCE, Émilie Cariou, merci. Vous qui êtes au contact aussi, justement, de cette contestation dans la Meuse, où vous êtes élu en circonscription. À tout de suite, ma chère Julie. On va parler d'un homme que vous lisez ou pas ?
Que je ne lis pas.
Que vous ne lisez pas ?
Non,
mais...
parce que j'ai besoin d'être charmée par un auteur et il ne me charme pas.
Alors, Houellebecq, que vous inspire-t-il justement ? Et au-delà de Houellebecq, les phénomènes littéraires, les grands vendeurs, comme on dit, de l'édition de Marc Lévy à Guillaume Musso, de Michel Bussy à Fred Vargas, on fait le tour de la question. À tout de suite.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.